Je m'appelle Ziad Darwish, je suis né au Liban et je raconte depuis 40 ans.
Je m'appelle Leïla Darwish, je suis née au Liban et j'ai grandi en France et je raconte des histoires depuis 17-18 ans.
Aujourd'hui, on se rencontre pour jaser du conte. Pour lancer la discussion, on a apporté trois objets qui représentent les trois sujets dont on va vous parler.
Vous écoutez Vide ton sac, tête à tête autour du conte. Un balado de la Maison des Arts de la Parole.
Bonjour ma fille.
Bonjour mon père.
Voilà, nous nous retrouvons aujourd'hui ensemble. C'est une occasion, tout simplement parce que tous les deux, on est conteuse
Et
et
conteur.
conteur. C'est une maladie dans la famille depuis plusieurs générations maintenant.
C'est vrai, alors c'est quand même une maladie qui est attrapée pas par tout le monde dans la famille.
Non.
On n'a été que quelques-uns. On n'est que quelques-uns, heureusement.
Oui.
Voilà,
Oui.
mais quand même.
Oui, ça dépend comment on regarde. Certains dans la famille disent malheureusement.
Vous êtes conteur. Et nous,
Non,
on est
ça
plutôt
va.
fiers, oui.
Oui.
C'est vrai.
Très
Et
bien.
oui, dans la famille, on est conteur, conteuse de génération. Ça a commencé avec Teta, ma grand-mère, ta mère,
Oui.
puis toi. Et qui
Oui.
m'a transmis le conte et qui l'a aussi transmis à ma sœur Najwa. Voilà, quatre conteurs dans la famille.
Oui, il doit y avoir quelqu'un encore plus haut que je ne connais pas. Ma mère parle beaucoup de sa tante qui lui a passé des histoires. Après, là, ça se perd. Voilà, nous sommes là pour parler. Moi, j'ai apporté avec moi un objet qui représente le conte pour moi. C'était un peu aléatoire parce qu'il y a beaucoup de choses qui représentent le conte pour moi. Ce que j'ai apporté, c'est une écharpe rouge, pas très large, que je mets sur mes épaules. Elle est en soie, mais elle doit être autre chose, hein, j'ai beaucoup d'écharpes. Pourquoi elle représente le conte pour moi? C'est un peu instinctif. J'aime personnellement à imaginer que le conte s'est tissé avec les premiers mots de l'humanité. J'aime à imaginer ça. J'ai lu il n'y a pas très longtemps que les anthropologues ont découvert dans les cavernes deux foyers. Un foyer, deux foyers de feu, un foyer où on faisait de la nourriture, on mangeait, il y a des traces autour, et un foyer où il n'y a que des traces du feu. Et les anthropologues supposent que c'est le lieu social où on se racontait des histoires, où on tissait ses paroles, on compte, on conseille, on récit. Et donc c'était au début de l'organisation de la société humaine. Et moi j'aime à imaginer, ce que j'ai lu ça quelque part, je ne sais rien, que ce tissage de mousse s'est accompagné de la même période des tissages de fil pour faire les premiers tissus qui ont couvert les humains.
Et c'est vrai que tu ne racontes jamais sans une écharpe.
Ah, jamais. Je me sens tout nu. Sans mon écharpe, je me sens tout nu. Il y a ça. Moi, je me sens prêt à raconter lorsque j'ajuste mon écharpe et je trouve que les deux bouts sont. Après, ça bouge beaucoup, hein, mais quand j'arrive sur scène, il faut que les deux bouts soient égaux. Et là, je sens que je suis prêt.
C'est comme ton rituel, quoi,
C'est mon rituel, ça.
de
Voilà,
préparation.
ça fait partie de mon rituel. Ah, je me suis rendu compte plus tard, hein, moi, c'est fait tout ça inconsciemment. Je ne m'étais pas décidé de faire un rituel. L'écharpe, c'est un lien avec le conte depuis toujours. Ma mère tricote, fait du crochet, elle fabrique beaucoup de choses. Elle travaille avec ses mains beaucoup, ta grand-mère. Et lorsqu'elle racontait, elle avait toujours quelque chose à la main à faire.
C'est vrai.
Pour préparer l'hiver, elle tricotait. Et elle tricotait beaucoup d'écharpes. Moi, j'ai encore des écharpes d'elle pour l'hiver, avec de la laine. Donc c'est bien. Elle avait toujours une écharpe sur la tête qui tombait sur les épaules quand elle racontait, quand elle bougeait les bras. Et elle jouait avec en racontant. C'est pareil aussi, inconsciemment, elle mettait. Et quand on ne voulait pas couper la magie de ses contes, quand on lui demandait un conte de plus, mais sans parler pour ne pas. On touchait l'écharpe de la
Je
grand-mère,
me
ta
souviens.
grand-mère, pour dire encore un conte, s'il te plaît. Donc voilà, c'est lié dans ma tête beaucoup au conte. Puis j'ai eu Il y a plein d'anecdotes dans ma tête qui sont liées contes écharpes. Je suis allé compter en Kanaky, en Nouvelle-Calédonie, chez les Kanaks, dans la province nord. Et ça, ce sont des tribus. Sur la carte, tu vois du nom de ville, mais c'est des petites choses dispersées dans le bois, sous les arbres. Et là, on est accueilli par les chefs traditionnels. On ne peut pas entrer dans la tribu, on ne peut pas raconter, on ne peut pas rester là si on n'est pas accueilli. Et pour être accueilli, pour demander à être accueilli, on présente un tissu. Et moi, c'était évident, pour moi, c'était l'écharpe. On présente un
Mais toi,
tissu.
tu as présenté ton écharpe.
Et, oui, mais j'ai toujours plusieurs, parce que je vais te dire pourquoi j'ai plusieurs aussi dans ma valise. Donc, tu présentes l'écharpe, tu la caresses, enfin, les tissus. Les tissus, c'est les liens. Ils acceptent de faire un lien avec toi ou pas. Et tu dis avec des mots poétiques, c'est vraiment, c'est complètement en plein dans le conte, pourquoi tu es là. Mais tu dis pas, je viens là raconter mes histoires à vos enfants. Tu dis, voilà, tu trouves des phrases
Ouais,
poétiques, symboliques pour
tu
dire
tises
pourquoi
ta parole.
tu tises ta parole. Et tu restes là, il y a un moment de silence absolu. Tu dis, mon Dieu, s'il n'accepte pas le tissu, je vais faire demi-tour et revenir 24 heures de vol, tu vois, pour revenir chez moi. Et un moment solennel, vraiment. Et à un moment, le grand chef prend le tissu, il a accepté, et puis il répond aussi avec une réponse d'une poésie extraordinaire. Donc ça, c'était la première fois que j'étais accueilli pour venir raconter mes contes chez les Kanaks. Et pour dormir, il n'y avait pas d'hôtel, donc j'étais accueilli chez le chef de la tribu. Et le soir, pour casser un peu le sable, j'ai raconté un conte, il m'a raconté un conte sur le même thème. Et puis, le lendemain, j'ai réussi, il m'a conduit à visiter les lieux tabous, les lieux religieux de la tribu, que j'aurais jamais eu la chance de visiter s'il n'y avait pas ça, ces tissus, ces contes. Voilà, donc, voilà, les contes, les tissus, l'écharpe, sont liés dans ma tête. Après, comme tout objet magnifique comme ça, magique, il a plusieurs utilisations. Hein. Moi, je passe beaucoup de temps sur la route et l'été, quand je passe à côté d'une rivière, je saute dans la rivière et je m'essuie avec mon écharpe. J'ai fait ma sieste sous un arbre, je mets l'écharpe sur ma tête ou je me couvre avec mon écharpe. Donc voilà, c'est en lien avec le conte, c'est en lien avec la vie. Et toi, c'est quoi ton objet qui représente le conte pour toi?
Alors moi, j'ai apporté cette cruche que tu connais. C'est une cruche qui vient du Liban. C'est une cruche traditionnelle qui sert à boire
Comme ça.
comme ça, ouais, sans utiliser de verre. C'est un objet que je connais depuis que je suis toute petite et que j'aime beaucoup. Et alors, si j'ai apporté cet objet, c'est pas pour l'objet, mais c'est pour ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pour l'eau. Pour moi, l'eau, c'est comme le conte. C'est un élément qui est là depuis toujours, qui est arrivé bien, 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 bien avant nous et qui sera là encore bien, bien, bien après nous. C'est un élément dont on a absolument besoin, qui nourrit nos cellules, qui nous nourrit, on est fait d'eau. Et c'est un élément qui étanche notre soif, principalement. Voilà. Et alors, il y a quelque chose que j'aime beaucoup avec l'eau, c'est que l'eau n'a jamais disparu de la planète. Depuis 4 millions d'années, c'est toujours la même eau qui est là. Parfois, elle se cache, parfois elle se transforme, mais elle est toujours là. Quand elle passe sous terre, elle va dans des mondes un peu sombres, elle va s'alimenter avec des oligo-éléments, avec plein de bonnes choses, et puis elle va ressurgir. Le soleil va la dynamiser. Voilà. C'est toujours elle prend des formes différentes, mais c'est toujours de l'eau.
Jamais pensé à faire le lien entre l'eau et les contes, mais maintenant que tu en parles, je te redonnerai la parole. Dans certains pays d'Afrique du Nord, chez les Kabyles surtout, on dit que mon conte coule comme un ruisseau.
C'est ça, exactement.
Et puis c'est vrai aussi, le conte, ça lui arrive de disparaître un peu, de se cacher, puis il ressurgit toujours. On a parlé, avant le renouveau du conte, on a parlé du conte qui avait disparu, est-ce qu'il va revenir, va pas revenir. Tous ceux qui croyaient au conte, ils savaient qu'il allait revenir, et encore plus beau, plus fort.
C'est ça. En fait, c'est un élément qui est toujours là et parfois on l'oublie, mais je pense qu'on en a réellement besoin, donc il ressurgit. Il ressurgit toujours. Et j'aime bien l'analogie de parfois on a Parfois, notre corps a soif, on a soif parce qu'il fait chaud, mais on n'a pas. Notre corps a soif, mais nous, on n'a pas la sensation de soif. On ne boit pas, par exemple. Souvent, l'été, on ne boit pas assez, alors qu'on a besoin de boire. Et puis, quand d'un coup, on boit, on sent tout le bienfait que ça nous fait. Et moi, j'ai un peu ce rapport-là avec le compte. C'est-à-dire, parfois, le compte, je le boude. J'ai l'impression que je n'en ai pas besoin. Que, voilà, j'ai presque une autre vie que ma vie de compteuse. Et en réalité, ça me manque, mais je ne le sais pas. Et c'est quand je me dis, bon, là, il faut quand même y retourner et se replonger dedans. Et dès que je me replonge dedans, ben, je me dis, mon Dieu, mais comment j'ai fait pour m'en passer? Comment j'ai fait pour le mettre de côté?
Moi, voilà. C'était un peu différent. Moi, j'ai fait dans ma vie, avant ta naissance, après ta naissance, j'ai fait dans ma vie plusieurs métiers. Hein. J'étais journaliste comme premier métier. J'avais une petite maison d'édition. Ça a duré à peu près 7 ans. En arrivant en France, chercher du travail, j'ai enseigné, ça a duré à peu près 7 ans. Et je me suis dit, le compteur professionnel, ça va durer 7 ans. Sauf que ça dure depuis 40 ans et ça lâche pas. Donc la règle a été cassée un peu. Chez les Dogons, j'ai fait le vieux qui a des connaissances, hein. en Afrique de l'Ouest, les Dogons du Mali classent la parole dans plusieurs catégories. Ils ont un travail sur la parole extraordinaire. Et la parole du conte, les paroles de sagesse, tout ça, ils les classent dans les paroles d'huile. Ils considèrent que quand on les dit, c'est lui qui les reçoit, il en garde une trace. Ça disparaît
comme
pas.
Comme une tache d'huile. Oui.
Voilà, il peut ne pas y penser un moment, puis à un moment, il va revoir la tache. Voilà. Donc, c'est une parole qui dure.
Pour les Dogons, l'eau s'évapore.
L'eau s'évapore.
Donc, disparaît. Mmh. Mais en réalité, l'eau s'évapore, mais ne disparaît pas.
Oui, c'est ça.
L'eau revient. Mmh. L'eau revient sous une autre forme, mais l'eau revient. Mmh. Et ce que j'aime beaucoup avec l'eau et avec le conte aussi, c'est qu'il y a quelque chose d'hypnotique dans l'eau. Les gouttes d'eau, ou même on peut rester parfois des heures à regarder une source couler, ça régénère et c'est très hypnotique. On peut rester là pendant des heures à regarder ça. Et pour moi, le conte, ça a un peu cet effet-là. Alors souvent, le conte, c'est aussi pour se divertir, pour rire, pour se faire du bien, se détendre. Mais j'aime le côté du conte qui emmène plus loin, qui a ce côté-là un peu hypnotique dans sa parole, dans son rythme. Et qui emmène un peu à un autre état de conscience, qui permet à ceux qui écoutent et à celui qui raconte aussi de vivre une expérience un peu particulière.
Maintenant, je crois qu'on peut passer maintenant au deuxième objet qui représente notre univers, notre démarche dans le conte, notre univers dans le conte. Je te laisse parler ou je parle? Tu veux que j'annonce le deuxième
Allez, vas-y.
Moi, mon deuxième objet qui représente mon univers dans le conte, c'est la bougie, c'est surtout la flamme de la bougie. La flamme de la bougie, ça aussi fait partie de mon rituel. Je suis très malheureux si un jour je ne peux plus allumer ma bougie pour raconter. Elle m'accompagne tout le long de mes soirées contes, de mes nuits de contes. J'ai même poussé jusqu'à trouver des bougies qui peuvent durer une nuit entière, quand je raconte la nuit entière.
Oui, parce que tu racontes toujours, depuis toujours, avec une bougie, en fait.
Depuis toujours.
Oui. Donc tu les as bien expérimentées, tu les connais bien.
Ah, je connais très très bien. Je connais très bien, et même quand j'ai fait une nuit entière, à la hauteur de la bougie, je peux décider que c'est le moment de faire une pause, ou à 5 minutes près, je connais le temps avec la bougie. Ça, cette lumière, je l'aime beaucoup. Elle me rappelle mon enfance, évidemment, aussi. Jusqu'à l'âge de 10 ans, j'ai vécu dans le village, on n'avait pas d'électricité. Donc, on faisait nos devoirs en soirée, tout ça, avec la lumière de la bougie. Puis, en plus, il y a une tradition dans la région du Moyen-Orient. Je crois qu'il nous est venu de la Perse. Mais maintenant, elle est beaucoup plus large. Elle va de l'Inde, de la Perse, du monde arabe, où on gardait une mèche dans l'huile qui reste allumé 24 heures sur 24. Un vase avec de l'huile, avec une mèche dans l'huile. Et tous les 2-3 jours, avant que la mèche ne finisse, on amène une mèche nouvelle, on l'allume à l'ancienne, on ajoute de l'huile. Et cette lumière ne se coupe pas. Cette lumière, elle est là tout le temps. Et lorsque quelqu'un se marie, il allume sa mèche à la lumière des parents. Et du coup, cette lumière continue. Dans certaines maisons, on dit, ah, celle-là, elle a 1000, 1200 ans. C'est vrai, elle n'est pas éteinte depuis 1200 ans. Cette fragilité de la lumière de la bougie, de la flamme de la bougie, il suffit que je souffle à côté un peu fort, elle peut s'éteindre. On a l'impression tout le temps qu'elle vacille. Moi, me rappelle beaucoup le conte, et c'est mon univers dans le conte. Moi, j'aime dire des choses parfois même graves, mais avec un peu avec douceur, avec voilà. Et ça représente beaucoup mon univers. En tout cas, j'en ai besoin aussi pour raconter autant que l'écharpe, sinon plus que l'écharpe. On sait, hein, nos religions qu'on connaît dans la région, toutes ont utilisé les symboles de cette lumière-là, la lumière fragile. Dans les croyances anciennes, on disait que l'être humain était Dieu parmi les dieux, et lorsqu'il a perdu sa place, il a gardé un souvenir de sa divinité qui est une lumière fragile, comme la lumière de la bougie.
Il y a aussi certains contes de la mort avec des bougies.
Et oui, la bougie qui représente la vie. Et quand elle finit d'écouler, la vie s'écoule. Donc voilà. La lumière de la bougie pour moi est très importante. Elle aussi, elle représente beaucoup de choses en lien avec le conte. En tout cas, quand je parle du conte, je pense beaucoup aussi à la bougie. C'est un moyen de clairer extrêmement vieux. Comme le conte, ancien, toujours très moderne, du temps où je circulais beaucoup, beaucoup sur la route, où m'arrivait de dormir dans ma voiture, j'avais toujours une bougie pour pouvoir lire avant de dormir. Donc, c'est toujours utile. Et quand ce n'est pas utile, c'est-à-dire, comme là, maintenant, j'ai allumé pour montrer, mais je trouve qu'elle ajoute une poésie à la situation autour, elle ajoute quelque chose. Une lumière de la bougie ajoute quelque chose de beau. Et je trouve que le conte, c'est ça. Moi, souvent, on me dit, est-ce que c'est nécessaire vraiment? Est-ce que c'est important? Je dis, bon, c'est important, ça apporte un peu de poésie. Donc, c'est important. Le conte apporte un peu de poésie. Pour moi, c'est important.
Et puis, c'est devenu, comme l'écharpe, c'est devenu un rituel. C'est-à-dire que au moment où tu allumes la bougie sur scène, c'est le moment où on va rentrer vraiment pleinement dans ce que tu vas raconter, dans cet espace qu'on peut dire un peu sacré, l'espace de la parole. Et puis, quand tu as fini de parler, quand tu as vraiment fini tout ce que tu as à dire, tu éteins.
Oui. Enfin, tout ça, c'est inconscient. Hein. Après, j'ai réfléchi. Moi, j'ai fait. Puis après, j'ai réfléchi sur ce que j'ai fait en général. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il y a ce côté sacré. Moi, je ne suis pas pratiquant ni croyant. Enfin, je crois à des choses, mais je ne suis pas pratiquant. Mais ce côté sacré du conte ou les côtés sacrés des choses, ça me touche. Ça me touche beaucoup. Et le côté sacré du conte, effectivement, je le sens. Hein, beaucoup plus dans mon corps que dans ma tête, en tout cas. Et je me suis rendu compte petit à petit que quand j'arrive sur scène, j'aime bien dire bonjour aux gens. Parfois, j'aime bien dire 2-3 phrases. Et je n'allume pas ma bougie pendant ce temps-là. Je l'allume une fois que je vais démarrer ma soirée conte. Une fois que j'ai démarré, je suis dans un autre monde.
C'est ça.
Je suis ailleurs. L'impression que j'ai, c'est quand je raconte, c'est que le conte me traverse complètement. Et j'arrive à des moments, surtout quand j'ai fait des nuits entières, j'arrive à des moments où je suis en transe. Mes pieds ne touchent plus sol avec le conte, quand je raconte, mes pieds ne touchent plus sol. Et c'est en général vers 5 heures du matin, 4 à 5 heures du matin, c'est au moment là où, très souvent, quand l'aube n'est pas très loin. Et je sens que ça y est, j'ai des cols et les contes. Et effectivement, je ferai des incantations, je dirais de la poésie, je dirais, ça me ferait le même effet d'être comme ça. Voilà, c'est ma copine. Le grand problème qui se pose de plus en plus, les grands théâtres disent « Ah non, du feu, c'est interdit. »
Ah, surtout pas. Oui.
C'est interdit. Donc, vu que ça fait partie de ma... Ça fait partie. Ma fiche technique se limite à la bougie. Je n'ai pas grand-chose comme exigence quand je vais raconter quelque part. Donc, souvent, on commande un pompier qui reste debout. à côté de la scène,
au parce, cas qu'il
a,
où,
parce qu'il y a la bougie allumée. Mais jusqu'à maintenant, j'ai réussi à la sauver. On m'a proposé des bougies électriques, flammes électriques. Voilà, c'est celle-là que j'aime. Et vous, chère fille ?
Alors moi, ce que j'ai apporté pour représenter un peu mon univers, en tout cas une partie de mon univers, j'ai apporté ce livre-là, qui est le livre de Nasser Kemir, l'ogresse que beaucoup connaissent. Je l'ai apporté pour le titre, pour les illustrations. J'aime beaucoup les illustrations de ce livre, où il y a écrit en bilingue des contes traditionnels, des contes merveilleux. Des contes merveilleux qui m'ont nourri dès le début, avec ma grand-mère, avec toi par la suite. Et c'est aussi par ça que j'ai commencé. Le conte, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à raconter. Et les premiers contes que j'ai racontés, et sans doute les premiers contes que j'ai entendus d'ailleurs, ce sont des contes avec des ogresses. Donc j'ai apporté ce livre-là surtout pour cette image-là que j'aime beaucoup, que je garde dans ma tête depuis des années en fait. C'est l'image donc d'une ogresse qui est en train de courir avec son enfant ou un enfant qu'elle a volé, ça on ne sait pas trop, mais voilà. Et voilà, j'aime beaucoup le personnage des ogresses. Je raconte souvent des histoires avec des ogresses, parce que c'est un personnage qui me touche énormément. Pour moi, c'est un personnage qui est archaïque, ancien, très ancien, qui est une sorte de résurgence de déesse ancienne, vrai ou pas vrai, je ne sais pas, mais c'est un peu le film que je me fais dans ma tête, de déesse ancienne et qui serait dans le monde du sauvage, à la limite du monde civilisé, en fait. Voilà. Et c'est ça qui m'intrigue beaucoup dans ce genre de personnage. Je trouve justement qu'il y a quelque chose d'assez mystérieux. J'ai ce genre de personnage. C'est aussi la femme, tout simplement. J'aime beaucoup les personnages de femmes dans beaucoup de mes contes, beaucoup dans Les Mille et Une Nuits que tu m'as transmis, les contes des Mille et Une Nuits avec Scheherazade. Les personnages de femmes qui sont soit dévoratrices, c'est le cas des ogresses qui mangent tout ce qui passe, soit nourricières. Et alors, ce que j'aime beaucoup justement chez les ogresses, c'est ce côté-là un peu... Elles peuvent dévorer tout ce qui passe et en même temps, elles sont par leur forme, par leur physique, leur sein, voilà, elles sont aussi nourricières. Et alors, ce qu'on dit beaucoup dans les contes au Moyen-Orient et du Maghreb, c'est que souvent, les ogresses ont des seins tellement grands, tellement lourds qu'ils traînent sur le sol. Et donc, quand elles veulent se mouvoir ou quand elles veulent travailler, elles sont obligées de jeter leurs deux seins dans leur dos. Et souvent, dans les contes, on les trouve comme ça. Le personnage principal arrive, l'ogresse est dans sa grotte en train de travailler de dos et ses seins sont jetés dans le dos et elle est en train de moudre, de faire de la farine avec du blé. Voilà, c'est ça. Et donc, dans le conte, on dit, si tu ne veux pas être dévoré par l'ogresse,
tête
son sein droit, tête son sein gauche avant qu'elle ait le temps de se retourner, mange une poignée de farine et à partir de là, elle ne pourra plus te toucher, tu seras comme son propre enfant. Voilà, et moi je trouve ça absolument fabuleux.
Oui, il devient ta mère nourricière.
Exactement, c'est ça. Donc celle qui peut te dévorer devient ta mère nourricière. Elle porte vraiment ces deux côtés-là. Voilà, et c'est un personnage qui est touchant par ça, cette manie de vouloir absolument toujours tout manger, d'avoir ce côté un peu gargantuesque, et en même temps ce côté très maternel que j'aime beaucoup. Et donc, pendant longtemps, j'ai raconté, et je raconte toujours, beaucoup d'histoires d'ogresses. Et j'adore voir la réaction des enfants. Souvent, les parents sont assez effrayés par tout ce qui est un peu monstrueux, tout ce qui est un peu saignant, alors que les enfants se régalent. Et moi, je me régale avec les enfants.
Bien sûr. C'est-à-dire que les enfants, je crois, hein, que dans l'instinct humain, on a cette capacité de comprendre les symboles et de voir ce qui est derrière, de ne pas voir l'image crue.
Alors, comme troisième objet qui représente le thème que nous partageons, qui est la transmission familiale, transgénérationnelle, moi j'ai apporté cette cassette
que je connais bien.
Que tu connais bien, que j'appelle la cassette bleue, qui date des années 1983-84, je pense. Je devais avoir 7-8 ans. C'est une cassette où j'ai enregistré mon premier conte. Toi, tu travaillais avec un prof de français dans un quartier à Avignon avec des enfants. Le but, c'était d'enregistrer des contes sur une cassette avec ces enfants-là.
C'est une cassette audio du système ancien.
Oui, c'est ça. Oui,
pour qui a ceux été remplacée après pas, par oui. le CD.
C'est ça, exactement. Une vraie cassette. Voilà, et donc les enfants, vous avez travaillé avec les enfants pour leur faire qu'ils préparent des contes, qu'ils les enregistrent pour que cette cassette soit ensuite vendue pour l'association qui s'appelle AICF à l'époque.
Association internationale contre la faim.
Voilà, c'est ça. C'était pour récolter l'argent. Et donc je suis venue.
Et c'était pour creuser un puits dans un village en Afrique de l'Ouest.
Exactement. Et donc j'ai participé à ce projet. Je me rappelle peut-être un peu en dernière minute, je ne sais pas. En tout cas, le conte que j'ai raconté là, c'était le conte du loukoum à la pistache. Le loukoum à la pistache. Que tout le monde connaît parce que c'est le conte de Catherine Zarkat, mais moi
on peut dire même son conte fétiche,
même son conte peut-être, oui, je sais pas. Voilà que tu m'as raconté toi. Peut-être à l'époque tu savais même pas.
Ah non, non. À l'époque quelqu'un m'a raconté cette histoire, je trouvais belle, donc je te l'ai raconté, mais je savais pas. Quand j'ai su que c'était Catherine, j'ai laissé le conte complètement pour Catherine.
Voilà et voilà donc c'est le premier conte que j'ai raconté, ou en tout cas que j'ai enregistré là, ça a été mon premier, et je dirais que par la suite, donc en fait c'est un peu comme si c'était le premier conte que tu m'avais vraiment transmis, parce que c'est un conte long, je me souviens de la difficulté pour enregistrer ce conte-là, à chaque fois je faisais quelques phrases et puis on arrêtait l'enregistrement, puis je prenais confiance et puis quelques phrases et on enregistrait. Ça, c'est mon premier souvenir. Un autre souvenir avec les cassettes, du coup, pas celle-là, mais d'autres cassettes, c'était les échanges qu'on avait avec ma grand-mère, ta mère, Teta, quand nous, on vivait en France et qu'elle était toujours au Liban. Et notre moyen d'échanger avec elle, c'était des cassettes. Elle enregistrait des cassettes sur lesquelles elle racontait plein de choses en arabe et elle nous les envoyait. Le détail, en fait, je ne le connais pas. Hein. Je ne sais même pas comment elles arrivaient.
Il faut dire qu'elle ne sait pas lire ni écrire, ta grand-mère, ma mère. Donc voilà. C'était sa façon de correspondre, c'était les cassettes.
Voilà, et je me souviens que nous aussi, en retour, on enregistrait sur un vieux magnétophone, là. Donc, je lui disais, donc je reparlais en arabe un petit peu. Teta, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Merci de donner des nouvelles, etc.
Là, tu parles en français. Hein.
Là, je parle en français parce que j'ai oublié, mais c'était ça. Et voilà. Et donc la cassette pour moi c'est aussi la transmission, c'est le début de la une partie du début de la transmission. Parce que pour moi les histoires ont commencé à être transmises je pense dans le ventre de ma mère en fait.
Je t'ai raconté dans le ventre de ta mère. J'ai raconté beaucoup à toi et ta sœur dans le ventre de votre mère.
Voilà.
Et moi de l'extérieur.
Et ensuite à la naissance il y a eu ma grand-mère qui a raconté plein d'histoires et puis toi.
Oui.
Et en fait j'ai toujours entendu des histoires. Il y a toujours eu des conteurs à la maison et j'ai toujours vu des contes, des spectacles de contes et c'est un peu comme si j'étais Obélix qui était tombé dans la marmite. Pour moi, le conte est quelque chose de normal.
Ouais.
Et je pense que je m'imaginais aussi, il y a longtemps, que chez tout le monde, c'était comme ça. Que tout le monde entendait des contes et que c'était normal.
Ouais.
C'est peut-être aussi pour ça que je me suis dit que c'était un travail normal.
Ouais.
Que, voilà.
Pour revenir à la cassette, c'était cool. La cassette, c'était une grande révolution. Quand ta grand-mère a découvert ce système-là, les magnétos appuyés, ils pouvaient se passer de quelqu'un qui lui écrit la lettre pour son fils. C'était une grande révolution pour elle. Hein. Donc, on a correspondu pendant des années comme ça. Et puis, elle allait, quand je suis venu en France, quand on s'est rendu compte que je ne pouvais pas revenir au Liban à l'époque, et il savait que je m'intéressais aux contes, et c'est devenu mon métier. Donc, elle allait recueillir des contes auprès d'autres conteuses, conteurs dans les villages autour, avec son magnéto, disons pour mon fils. et du coup, la cassette a joué un rôle important dans la transmission entre ma mère, moi et toi, mais aussi dans la transmission des contes d'autres conteurs que ma mère envoyait.
Et peut-être pour boucler la boucle, en tout cas en partie, sur une des cassettes, on a retrouvé un chant de Teta, de ma grand-mère, qui est devenue l'introduction au spectacle qu'on a fait en duo, quand j'ai voulu commencer à raconter, et qui est devenue par la suite l'introduction du spectacle qu'on fait en trio avec Najwa.
Ouais.
Donc en fait, oui, quand on joue à trois, la boucle est bouclée.
On est quatre.
On est quatre, ouais. C'est exactement ça.
Oui, quand on joue à trois, il y a la voix de la grand-mère qui commence, qui ouvre. J'ai pas hérité d'elle, elle chantait très bien. Elle chantait vraiment très 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 bien. Oui, je présente mon objet.
Et toi, oui.
Moi, mon objet, c'est un objet, deux objets jumeaux. Hein, ce sont deux cailloux ramassés au bord de la mer, pas très grands. Des cailloux que je peux mettre dans ma main, que je peux cacher, que je peux caresser. Un caillou noir, un caillou blanc, des cailloux lisses qui ont été polis par les vagues, par le temps, par les siècles. Ceux-là sont ramassés l'un au Liban, le noir, et le blanc, je vais ramasser en Bretagne. J'ai ramassé beaucoup de cailloux, comme beaucoup de gens dans ma vie. Pourquoi représente la transmission à un moment, c'était mon lien avec le Liban. Les plages me servaient beaucoup pour marcher, pour préparer mes choses, mes comptes, mes articles de presse. J'aime beaucoup préparer ce que je dois faire, lire en marchant. Et j'aime bien avoir quelque chose de doux dans la main. Et le caillou, c'était...
C'est ça. Depuis tout à l'heure, tu fais ça, j'ai envie de toucher moi aussi.
Oui, oui. Mais j'ai le caresse inconsciemment. Donc, il y a ça. Puis, je me suis rendu compte, quand j'ai commencé à faire des ateliers des contes avec les enfants dans les années 80, comment faire parler chacun à son tour sans le bousculer, sans qu'il me bouscule non plus. Et puisque j'avais toujours un caillou dans la poche, j'ai sorti le caillou, j'ai dit « on parle quand on a le caillou ». Et le caillou a commencé à circuler, et je me suis rendu compte de ses effets bénéfiques, magnifiques, y compris ceux qui avaient difficulté à parler et qui m'intéressaient encore plus que les autres, pour qu'ils participent à l'histoire. Tant qu'ils avaient le caillou dans la main, ils étaient tranquilles. Ils pouvaient prendre le temps qu'il faut pour qu'ils trouvent leurs paroles. Et personne n'avait le droit de les bousculer parce que les autres n'avaient pas le caillou. Et j'ai trouvé que c'était extra. Ça a résolu le problème qui était pour moi comment donner du temps à celui qui a besoin du temps sans que les autres sentent un peu... Voilà. Et puis, on a raconté à deux.
Quand j'ai commencé, oui.
Quand tu as commencé, chaque fois que je me rappelle encore, j'ai souri parce que c'était un malentendu absolu pour moi.
C'est ça.
Moi, je travaillais à l'époque sur La Reine de Saba et j'avais fait une première avec une danseuse. Et toi, à l'époque, tu étais dans la danse.
Oui, oui, je faisais partie d'une troupe.
D'une troupe de danse.
De danse traditionnelle, oui, du Maghreb.
Danse traditionnelle du Maghreb, hein.
Et je suis venue te voir et je t'ai dit j'aimerais qu'on fasse un spectacle ensemble. Et toi, t'as pensé que je voulais danser.
Oui, et je t'ai dit c'est super, je travaille maintenant la Reine de Saba, la danseuse avec qui je travaillais, elle est partie, la vie l'a menée ailleurs. Elle m'a dit non, je ne vais pas danser.
Voilà, et là c'est la phrase extraordinaire qui est sortie de ma bouche, je ne sais pas d'où elle est venue. Et j'ai dit non, je ne veux pas danser, je veux raconter.
Voilà. Et c'est là.
Et c'est comme ça que ça a commencé.
Et c'est là où on sent qu'est-ce que ça veut dire, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire la transmission. C'est-à-dire, tant que j'ai raconté des contes à mes enfants à la maison, tant que j'ai raconté des contes ailleurs, et puis mes enfants étaient là à écouter, tant que mes enfants baignaient dans les contes, c'était normal, c'était ma vie. J'étais conteur, ils étaient là, mes amis étaient conteurs. Voilà, tout ça, c'était normal que mes enfants baignent dans des contes parce que c'était mon métier. C'était mon activité, mon travail, ma passion, c'était tout ça. Mais quand. Ma fille me dit « Je vais compter avec toi », c'est là où on sent l'autre côté de la transmission, c'est-à-dire ce côté des responsabilités importantes, oui. Lourdes, c'est-à-dire on a la beauté d'accompagner quelqu'un sur son chemin, mais aussi la responsabilité de ne pas se tromper de chemin, de l'aider à trouver son propre chemin, pas le conduire sur notre chemin.
Et c'est à partir de là qu'on a décidé de faire un accompagnement, véritable accompagnement. C'est-à-dire que jusqu'à présent, moi j'ai eu la transmission de toutes les histoires, comme tu dis, de manière...
informelle.
Voilà, c'est très informel. Donc ça m'a nourri évidemment, mon imaginaire, etc. Et puis à partir du moment où on a décidé que j'allais raconter, je l'ai formulé, C'est là où les choses sont devenues sérieuses et il a fallu mettre en place des choses un peu plus...
C'est là où j'ai connu...
Voilà, vraie transmission, un vrai compagnonnage en fait.
Bon, c'est là où je me suis dit comment on faisait les lettrés ma mère pour m'accompagner. Parce que moi, ma mère racontait à tous, on est sept, bon, sept frères et sœurs. Ma mère racontait à tous ses enfants, puis les voisins, puis les cousins, puis enfin, qui venaient à des moments où elle racontait. Donc et moi, je me suis intéressé au conte plus que les autres. Donc, elle a commencé à me guider dès le début. Elle m'a dit que je commençais à raconter avec elle à l'âge 4-5 ans. Donc, elle a commencé à me reprendre un peu, parce que je voulais raconter. Elle m'a repris, et ça, tu le sais, elle m'a repris, même une fois, elle m'a remis sur le chemin, alors que j'étais adulte, j'avais deux enfants, et j'étais en visite chez elle. Voilà, donc, elle a gentiment, elle a joué le maître qui met sur le chemin de temps en temps quand j'ai déraillé. Donc j'ai essayé de me rappeler tout ça et de moderniser parce que moi je suis pas ma mère, je ne vis pas la même chose, tu n'es pas moi. Enfin, voilà, et je suis parti sur ces projets d'accompagnement pendant 3 ans minimum.
C'est ça, on a commencé j'avais une commande, c'était des contes palestiniens. Le comité palestinien d'Avignon m'avait demandé ça. Donc on avait commencé par travailler là-dessus. Et puis ensuite, on a commencé à travailler sur les mille et une nuits. Parce que souvent, c'est comme ça. On a une injonction, on nous demande quelque chose, c'est une commande ou voilà, on a une date butoir. Et du coup, on se met à préparer par rapport à cette. Et c'est un peu ce qu'on a fait. On nous a demandé une nuit ensemble. Sur les mille et une nuits, et donc là, il fallait s'y mettre, on a travaillé comme des fous.
Ouais.
Et on a fait ce travail-là de transmission.
Voilà, c'est le travail de transmission avec toi, puis après avec ta sœur, parce que ça se passait exactement pareil avec ta sœur, il avait son travail, il travaillait, puis un jour, on me dit, je vais devenir conteuse. Donc, je vais devenir conteuse, donc voilà, on s'est fait un programme aussi. Parce que pour moi, si tu veux transmettre un répertoire, du conte, ça j'adore. Dès la première fois où j'ai fait une formation, un stage, je commençais à essayer de repérer quelqu'un à qui passer mon répertoire. Mais accompagner, transmettre, pour moi, ce n'est pas seulement transmettre un répertoire, parce que le répertoire, quand on transmet, c'est lui qui l'accueille, il peut le garder comme ne pas le garder. On transmet un outil, mais c'est lui qui le reçoit, il n'est pas obligé de le garder du tout.
D'ailleurs, dans tout ce que tu m'as transmis, toutes les histoires, notamment, comme on disait la dernière fois, les contes de Sinbad le marin, les sept voyages, qu'on a racontés ensemble, puis que j'ai raconté toute seule, je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas du tout pour moi.
Voilà.
En fait, je ne les raconte pas.
Voilà, transmettre, c'est accompagner, ce n'est pas imposer du tout. Ce n'est pas imposer un regard. Mais en même temps aussi, c'est transmettre autre chose que le répertoire. Transmettre tout ce qui est autour, tout ce qui est... Pour résumer, on peut l'appeler l'éthique, c'est-à-dire le respect de l'histoire, le respect du conte, le prendre au sérieux, même quand il est rigolo, mais c'est-à-dire prendre cette parole au sérieux, savoir qu'il est important, savoir que c'est un éveilleur, c'est pas un endormeur, c'est un outil qui aide à réfléchir. En Orient, le grand maître Rumi dit « réveille un conte, il t'éveille ». Un conte est censé à éveiller, à aider à poser des questions, à aider à trouver son chemin dans la vie, à avoir des réflexions philosophiques sur les choses, sur la mort, sur les choses essentielles de la vie. Donc, transmettre, c'est aussi accompagner l'autre dans quelle relation on a avec celui qui vient nous écouter, même si parfois il est casse-pieds, mais il a quitté sa maison pour venir nous écouter. Voilà.
Et, oui, d'ailleurs, la particularité là, c'est que nous, on est dans une transmission familiale. Donc, je pensais d'ailleurs que pour la plupart des conteurs, c'était le cas, mais pas du tout. Donc, il y a aussi ce rapport père-fille qui rentre en jeu, qui est assez délicat, c'est-à-dire comment. Il faut rester en bon terme quand même. Voilà, donc c'est comment, avec légèreté et en même temps avec... parce que le conte est un matériau important. Il a sa densité, c'est un vieillard, mais donc il faut bien s'en occuper. En même temps, c'est quelqu'un de très moderne. Il faut savoir... donc c'est comment transmettre ça avec douceur, mais en même temps avec fermeté.
Fermeté et respect.
Pour moi, le respect
est très important. Parce que moi, je ne sais pas ce qu'il va faire de ce matériau, la personne qui reçoit toi, ta sœur, mais aussi quand j'ai fait des formations, des accompagnements longs, sur 3 ans, 4 ans, des certains compteurs, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Et ils peuvent même utiliser ça seulement comme moyen d'apprendre à modeler, puis modeler complètement autre chose. Mais je crois profondément que si on est compteur, je crois profondément qu'il y a des axes principaux à ne pas oublier. C'est prendre au sérieux le compte, c'est le respect qu'on a pour le compte, même si on ne veut pas raconter.
Les personnages aussi.
Les personnages du compte, avoir une culture générale du compte. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on a ce luxe que peut-être les autres l'avaient moins dans les sociétés anciennes. On a ce luxe où on peut avoir une culture extrêmement générationnelle. On peut ne pas avoir envie de raconter des épopées. Je me dis, mais ce serait bien que tous les conteurs sachent c'est quoi une épopée. Aille visiter une épopée, qu'ils sachent c'est quoi les contes chinois, les contes africains. Cette culture générale nourrit. Moi, je crois que la nourriture indirecte de nos histoires, et là, j'utilise histoire exprès, les contes, les récits, tout ça, la nourriture indirecte est extrêmement forte et on la sent. Elle donne une poésie, un poids à tous les mots qu'on va dire, même si on disait les mêmes avant cette nourriture, ça n'aurait pas le même poids. Je m'appelle Gérald Darwish, j'ai 40 ans. J'aimerais ça. Ça doit être ça.